Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du SEL. Et je suis aujourd'hui avec Madame Sylvette Collard, qui est directrice du parrainage au SEL. Madame Collard, bonjour.
Bonjour Monsieur Hillion, bonjour chers auditeurs.
Alors, bien, vous êtes directrice du parrainage depuis quelques temps maintenant, et avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui va être la manière dont les programmes de parrainage se sont adaptés à la situation de crise sanitaire actuelle, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et peut-être dire quelques mots de votre parcours avant d'arriver au SEL et qui montre une certaine logique au fait que vous vous engagiez aujourd'hui dans le soutien de la cause des enfants qui vivent dans la pauvreté?
Oui, bien sûr. Je suis tout d'abord maman de 5 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants. J'ai passé une vingtaine d'années à l'expatriation en Amérique latine et en Asie. En Argentine, par exemple, j'ai travaillé dans un bidonville pendant 4 ans. J'ai aidé à la trésorerie d'une crèche et c'est là la première fois que j'ai côtoyé la pauvreté. Puis, pour suivre mon mari, je suis partie en Colombie où j'ai aidé une association chrétienne à amener de l'eau sur les hauteurs dans les bidonvilles. Et là encore, la pauvreté était là et m'a énormément touchée. J'ai beaucoup été en contact avec des enfants dont le regard en disait long. J'y ai lu la faim, la peur, le froid, la détresse. Et vraiment, mon cœur a été chamboulé. Je suis ensuite partie en Asie. Là aussi, j'ai travaillé dans un orphelinat à Taïwan et en Chine. J'ai parrainer une petite fille qui se trouvait dans le Yunnan. Voilà, de retour en France, évidemment, je suis restée avec toutes ces images dans le cœur et j'ai tenu à faire quelque chose pour aider les enfants des autres continents. Le SEL, je le connaissais déjà. Je recevais régulièrement les publications et lorsque j'ai vu l'offre d'embauche demandant une directrice ou un directeur de parrainage, eh bien, j'ai écrit. Voilà, c'est une grande joie aujourd'hui de faire partie de toute l'équipe et de mener à bien leur mission de parrainage sur les 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le parrainage d'enfants avec le SEL ou bien qui le connaîtraient peut-être de loin, est-ce que vous pourriez récapituler en quelques mots ce que c'est que le parrainage, ce à quoi s'engage quelqu'un qui voudrait parrainer un enfant avec le SEL?
Oui, bien sûr. Le parrainage est un moyen efficace et complet pour lutter contre la pauvreté. Dans nos centres d'accueil, les enfants reçoivent un soutien alimentaire et médical, un soutien scolaire, un enseignement chrétien et peuvent participer à des activités sociales et culturelles. Le parrain, lui, de son côté, a pour engagement de prier pour l'enfant, de lui écrire et également de donner, évidemment.
Alors, l'engagement du parrainage, c'est 30 euros par mois. Et puis, ceux qui le souhaitent peuvent d'ailleurs donner une somme supplémentaire pour des projets liés au parrainage. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est ça fait plusieurs mois maintenant que le monde entier, ou une très grande partie du monde, traverse une crise sanitaire inédite. Forcément, ça nous a impacté en France, mais ça a aussi impacté les pays dans lesquels il y a des centres de parrainage. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette épidémie de coronavirus s'est déclenchée? Est-ce que les programmes de parrainage ont continué normalement? Est-ce qu'ils se sont complètement arrêtés? Quelles sont les nouvelles?
Au début de la pandémie, les centres d'accueil ont formé les enfants aux gestes barrières, notamment au lavage des mains, et certains ont même installé des dispositifs pour le lavage des mains. Lorsque les mesures gouvernementales sont devenues plus strictes, les centres ont dû fermer et leurs programmes ont dû s'arrêter. Mais le personnel a voulu continuer de soutenir les enfants en situation de pauvreté. Et pour cela, ils ont rivalisé d'ingéniosité. Outre, lorsque c'était possible, les visites à domicile, certains n'ont pas hésité à braver les difficultés pour se rendre dans les villages, rencontrer les familles et leur distribuer des kits alimentaires et des kits d'hygiène de façon à ce qu'ils puissent survivre.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu une idée du genre de défi que les enfants parrainés peuvent rencontrer dans une période comme celle que nous vivons en ce moment et que nous avons vécu ces derniers mois?
Je pense tout particulièrement à la protection de l'enfance et des abus que le confinement favorise. C'est pour cela que le personnel de nos centres d'accueil ont tenu à soit voir l'enfant si c'était possible régulièrement, soit à le joindre par téléphone pour s'assurer que lui aille bien.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation dans les pays? Est-ce que les écoles ont arrêté de fonctionner? Est-ce qu'on a une idée de au jour le jour ce que ça peut changer dans la vie d'un enfant, la situation actuelle? Peut-être que c'est différent d'un pays à l'autre.
Oui, en effet, la situation est différente d'un pays à l'autre. Tout simplement parce que les mesures et les contraintes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, trois bureaux nationaux de nos pays partenaires sont ouverts. C'est le cas de la Tanzanie, du Togo et de Haïti. Tous les centres ont réouvert et fonctionnent normalement, à la plus grande joie des enfants et de leurs familles. 16 autres bureaux nationaux sont partiellement fermés et 6 autres sont complètement fermés. Donc pour ces pays, toutes les activités se sont arrêtées. Mais là encore, le personnel a mis en place des programmes en ligne, des activités virtuelles de façon à pouvoir soutenir, même de loin, les enfants et leurs familles.
Donc en gros, c'est pas parce que les centres d'accueil sont fermés qu'il n'y a plus du tout d'activité pour les enfants parrainés.
Non, non, non. Au départ, évidemment, les centres ont dû se réinventer, se réadapter. Mais ils ont réussi à le faire très rapidement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même via la radio, dans certains pays d'Afrique, les cours sont dispensés.
Alors là, nous avons vu à la fois certaines situations qui peuvent être dramatiques. Hein. Vous avez parlé de protection des enfants avec les abus qui peuvent survenir dans des situations de confinement. On a vu la nécessité de s'adapter. Mais je pense qu'il y a aussi des belles histoires qui se produisent dans ces situations extrêmes qui peuvent aussi être l'occasion pour l'amour du prochain de se manifester de façon tangible. Est-ce que vous pourriez nous en raconter l'une ou l'autre?
Oui, dans le cadre médical, pendant le confinement, un petit garçon de 7 ans, Zion, du Togo, qui était atteint d'une anémie plasique, a pu se rendre à l'hôpital à 3 reprises pour une transfusion sanguine, tout simplement parce que Alan, un membre de l'équipe du centre d'accueil, a bravé les interdits pour pouvoir l'emmener à l'hôpital. Si l'on change de continent en Amérique latine, au Guatemala, certaines jeunes adolescentes avaient fait partie du programme du centre d'accueil de fabrication du pain. Et donc, elles ont profité du confinement pour le faire elles-mêmes à la maison. Et puis, grâce à la distribution qu'elles ont pu faire avec leurs copines, elles ont aidé toute la communauté environnante à survivre. Et puis, en Thaïlande, en Asie, on peut noter que les papas qui avaient perdu leur emploi ont été formés à distance avec leurs enfants pour pouvoir fabriquer des masques grâce à l'atelier de couture qui avait lieu auparavant, avant la pandémie. Et puis, des histoires, il y en a plein. Tous les jours, on en connaît d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on aide les enfants, eh bien, pendant la pandémie, malgré les difficultés, la situation familiale qui est déplorable et qui s'aggrave souvent parce que le papa perd son emploi ou parce que tout simplement, il y a une autre catastrophe naturelle où la vie devient trop dure, eh bien, il faut savoir que les enfants sont résilients et bravent aussi les difficultés, se relèvent, s'encouragent et mettent en œuvre des activités auxquelles ils n'auraient pas cru pouvoir accéder.
C'est particulièrement intéressant le deuxième exemple que vous avez donné, l'exemple sur le Guatemala, parce que c'est finalement l'une des bases du parrainage, de se dire on aide quelqu'un aujourd'hui pour que ce soit quelqu'un qui puisse aider d'autres demain. Et c'est quelque chose que finalement une situation de crise peut révéler. Alors dans le parrainage, il y a bien sûr l'aide que les organisations locales, partenaires du SEL vont apporter aux enfants, mais il y a aussi les lettres. Alors, ça marche encore? Est-ce qu'on peut écrire à son filleul? Est-ce que quand on parraine un enfant, on continue à recevoir du courrier dans la période actuelle? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période?
Eh bien, il faut surtout continuer d'écrire, parce que même si le courrier est retardé, parfois arrêté dans certains pays, comme c'est le cas actuellement au Bangladesh, la lettre arrivera. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'un jour, votre filleul puisse vous lire. Il a besoin de savoir qu'il est connu, qu'il est aimé, qu'il est protégé. Il a besoin de tisser ce lien avec vous. Et il a besoin de vous, tout simplement. Donc, ne cessez pas d'écrire et continuez. Pensez à lui, priez pour lui. Voilà, si j'ai un message à donner, c'est celui-là.
Chaque année, le SEL lance un appel de Noël pour permettre aux enfants parrainés de recevoir un cadeau. L'idée est de mettre en commun tous les dons pour que chaque enfant parrainé reçoive quelque chose. Est-ce que ça marche aussi cette année ou pas en période de Covid?
Si, cela marche également cette année. Et je dirais même peut-être que ça marchera mieux que les autres années. Nous avons des parrains formidables et des enfants qui sont dans l'obscurité. Et je pense très sincèrement que la moindre lettre ou le moindre cadeau viendra comme une lumière dans leur obscurité.
Donc le fonds de Noël pour 2020 est ouvert. Une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si dans la période actuelle, il est possible de commencer à parrainer un enfant. Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce qu'il y a encore des enfants qui attendent un parrain ou une marraine? Est-ce que tout est bloqué pour le moment? Ou est-ce qu'un auditeur qui, en vous écoutant, se dirait... Oui, pourquoi est-ce que je parraine pas, au fait? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Eh bien, il lui suffit juste de nous appeler, parce que, comme vous le dites si bien, beaucoup d'enfants sont toujours en attente d'un parrain. Ce sont des enfants qui étaient dans la pauvreté, qui ont basculé dans l'extrême pauvreté, et qui espèrent et prient pour que un parrain de l'autre bout du monde puisse lui être attribué.
Madame Collard, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Alors, pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur le parrainage des enfants, je vous invite à vous rendre sur le site internet du SEL, www.selfrance.org, SELFRANCE tout attaché, www.selfrance.org. Alors sur le site du SEL, vous trouverez nos coordonnées, vous pouvez nous appeler, comme a dit Madame Collard, si vous avez envie d'en savoir plus ou de commencer à parrainer un enfant. Vous pouvez aussi trouver la présentation d'enfants qui attendent un parrain ou une marraine et décider, à partir du site internet, de demander à parrainer un enfant. Et vous trouverez sur le site toutes les informations sur le parrainage, mais aussi sur ce que font les partenaires du SEL de manière générale en réponse à la situation du coronavirus. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.